Voilà, je voudrais aller avec vous ce matin dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains, une épître extrêmement importante dans l'Écriture, mais aussi dans l'histoire de l'Église. Dans l'histoire de l'Église. Pourquoi ? Parce que c'est au travers de cette épître qu'un homme de Dieu, un homme qui se destinait à devenir un juriste dans son temps, un homme de loi, et puis... bien sûr, il avait été élevé dans la religion, et pour lui, Dieu, c'était quelqu'un de très dur, d'austère, et il s'est trouvé dans un orage extrêmement violent, avec des éclairs qui tombaient à côté, et il a dit, mais si je ne meurs pas, je te dévoue ma vie. Vous voyez ? Alors, bon, déjà, le rapport entre Dieu et lui, c'était, voilà, dans la colère. Et puis, il est devenu moine, et il avait toujours cette peur de Dieu, parce qu'il se demandait, mais enfin, Dieu nous a créés pour qu'on aille en enfer. Il y avait vraiment, enfin, voilà, c'était vraiment compliqué. Et un jour, eh bien, on lui a donné l'occasion. À cette époque-là, la Bible, eh bien, n'était pas accessible, eh bien, au commun des mortels. Il fallait connaître le latin, etc. Et il a pu lire les Écritures, et notamment dans l'Épître aux Romains. Lui qui pensait qu'on devait son salut uniquement aux bonnes actions qu'on pouvait faire, aux bonnes œuvres, et qui était toujours accusé par sa propre conscience de ne jamais en faire assez. Il a découvert quelque chose, c'est qu'on est pardonné, non pas parce qu'on se rachète soi-même, mais on est lavé, pardonné, racheté, parce que Jésus a tout accompli à la croix. C'est lui qui a fait l'œuvre qui nous sauve. Et nous, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est à placer notre confiance en lui. Cet homme, vous le connaissez peut-être de nom ou de réputation, Martin Luther. Et à partir de là, en Europe, il y a eu un mouvement de réveil extraordinaire, centré sur les Écritures, sur la personne de Jésus, et dont on est d'une certaine manière héritier encore aujourd'hui. Alléluia. Alors cette épître aux Romains, elle est importante. Amen. Et on va la lire. Pas en entier, François, mais on va la lire quand même un petit peu. Et au chapitre 4 et au verset 13, voici ce qui nous est dit. En effet, donc c'est Paul qui parle, conduit par le Saint-Esprit, il enseigne, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Ce n'est pas par la loi, ce n'est pas en accomplissant des œuvres, mais déjà, c'est par la foi, la justice de la foi. Voilà, on va s'attarder sur toutes ces choses-là. Et il nous est dit, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père, à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père, devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé, compté à justice. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, c'est-à-dire pour nous sauver. Amen. Gloire à Dieu. Voyez, déjà au travers de ces quelques versets que nous venons de lire, la richesse extraordinaire qui se dégage de l'enseignement de l'apôtre Paul sur le fait d'être justifié par la foi en Jésus. Pour faire encore une fois peut-être un bref rappel, l'Écriture nous dit que tous ont péché, il n'y a pas de juste, pas même un seul, et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais il nous est dit également, ils sont gratuitement justifiés, rendus justes par sa grâce, par le moyen de la rédemption, eh bien, qui est en Jésus-Christ. Comme nous le citons souvent, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous pouvons être libérés de notre péché, de notre passé, de nos fardeaux, de notre culpabilité, parce que Jésus a payé notre dette à la croix du calvaire. Alléluia! Et cela, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, l'œuvre d'une religion, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et je vous disais tout à l'heure, c'est accessible, non pas grâce à une espèce d'ascèse, c'est-à-dire de choses dures qu'on s'imposerait à soi-même pour parvenir eh bien, à ce niveau de salut. Non, non, il suffit simplement de placer sa foi en Jésus-Christ. Et la Bible, et si vous voulez noter ce verset dans Romains au chapitre 10 et au verset 9, il nous est dit ceci, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alléluia ! Amen ! Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. C'est parce que Christ a tout accompli. C'est le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle. Et c'est en Jésus-Christ. Alléluia ! Et ce matin, eh bien, nous voulons être de ceux qui glorifient le Seigneur et qui disons de tout notre cœur, « Seigneur, je me confie en toi. » Alléluia, c'est toi qui as tout accompli. Et sur cette terre, je veux marcher eh bien, en étant complètement dépendant eh bien, de ton œuvre. Je veux me confier en toi parce que tu es bon, Seigneur, à toi la gloire. Mais ce matin, je voudrais nous intéresser donc à ce croyant qui est Abraham et qui est un type, un exemple, un modèle eh bien de ce que nous devons être, de ce que c'est quelqu'un qui place sa foi en Jésus. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui place sa foi en Christ ? À quoi on doit s'attendre lorsque nous disons que nous plaçons notre confiance en Jésus ? Alors, il y a plusieurs choses qui sont données, mais j'ai noté pour vous ce matin eh bien, ce détail au verset 21. Il nous est dit, au verset 20, que Abraham fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et le verset 21 surtout, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et le mot que je voudrais retenir avec vous, c'est ayant la pleine conviction. Une conviction, c'est une ferme assurance. C'est quelque chose, c'est une certitude qui est ancré dans notre cœur, qui est confirmé par des preuves, etc. Mais c'est quelque chose qui rend un être fort. Une conviction, ce n'est pas quelque chose qui change au gré des jours, des mois ou des années. C'est quelque chose qui perdure. Et l'Écriture nous dit eh bien, que cet homme-là avait une pleine conviction. Dans l'Épître aux Romains, encore une fois, la conviction, c'est un mot important. Dans Romains au chapitre 15, voilà, nous faisons une petite introduction sur ce terme. Et au chapitre 15 et au verset 5, alors est-ce que je ne me trompe pas ? C'est plutôt. Voilà, oui, est-ce que c'est ça ? Bien sûr que c'est ça. Emmanuel, qu'est-ce qui t'arrive ? Alors, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Est-ce que c'est ça ? C'est pas ça, hein ? Ben, vous avez la même Bible que moi. C'est quoi, c'est 6 ? Non, c'est pas ça. Celui qui trouve le premier l'erreur, voilà. Ah, c'est peut-être le verset 14, pardon. Oui, voilà. Il nous est dit à la fin du verset 14, « Telle fait une distinction entre les jours, telle autre les estime tous égaux. » Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Il nous est dit également, au verset 23, regardez la fin. Le verset 14, chapitre 14. Mais il faut suivre là. Un véro. La pauvre, je lui dis le chapitre 15, on ne trouve pas, mais c'est le chapitre 14. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, on est à la paillade ici. Hein. On se parle. Hein. Voilà. Et regardez, 14:23, tout ce qui ne résulte pas de la foi, tout ce qui ne résulte pas d'une conviction, même est-il traduit par ailleurs, est un péché. Vous voyez ? Donc, nous avons besoin de comprendre comment on peut arriver à une force de conviction. Et la Bible nous parle d'un homme, Abraham, qui, face à sa faiblesse personnelle, je rappelle que Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants, ils sont âgés, mais malgré tout, il a la conviction, malgré l'handicap de leur âge, que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Et ça va s'accomplir. Et ils auront un enfant qui sera une source de bénédiction. Et au travers de cet enfant, un autre enfant, une nation, et dans cette nation, le sauveur du monde. C'est extraordinaire ce qui se passe. Alléluia. Donc, comprenons comment il est important pour nous, pour nos enfants, pour le monde dans lequel nous sommes, associés à la mission qui nous est donnée, d'être des hommes et des femmes qui ont une pleine conviction, pas des gens qui disent peut-être que oui, peut-être que non. Ça vient de la Normandie, ça. Est-ce qu'il va pleuvoir ? Peut-être que oui, peut-être que non. Bah, il peut pleuvoir plusieurs fois par jour, voilà. Il peut faire beau temps plusieurs fois par jour. Non, non, mais une pleine conviction. Et je voudrais vraiment qu'on puisse parler de cela et comprendre l'origine d'une telle conviction, qu'on puisse voir ensemble comment cette conviction peut être façonnée, comment également il faut la protéger parce qu'elle est éprouvée et comment elle est récompensée également. Alors tout d'abord, l'origine de cette conviction, elle repose sur une révélation. Elle repose sur une révélation. Tout à l'heure, je vous ai dit une certitude avec des preuves. Vous savez, ce livre-là, la Bible, c'est un livre de révélation. Ce livre-là n'essaye pas de prouver que Dieu existe. L'auteur, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et les premiers mots, c'est « Au commencement, Dieu ». Alléluia. Et Dieu se révèle. Alléluia. Et dans la vie d'Abraham, il y a eu une révélation. Abraham, c'était un homme qui ne connaissait pas Dieu. Certainement, il y avait une recherche personnelle dans son cœur pour que Dieu lui parle. Mais dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, il nous est dit tout simplement « L'Éternel s'adressa par là à Abraham. » Et là, il va y avoir une révélation. Dans la suite de la vie d'Abraham, on s'aperçoit que c'est un homme qui a besoin de tout apprendre sur Dieu. La sainteté de Dieu, il ignore complètement ce que c'est. Mais lorsque Dieu lui parle, il lui parle de sa grâce, de son amour. Et il va faire de lui une source de bénédiction. Alléluia. Cet homme-là, c'était un homme qui était dans l'erreur de son temps. Certainement, il avait été élevé dans le paganisme. Certainement, il y avait des choses occultes autour de lui, comme dans cette civilisation babylonienne d'où il était issu, de Ur en Chaldée. Mais voici, le plan de Dieu entre dans sa vie. Alléluia! Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia! Et Abraham va se voir être un homme béni par la révélation que Dieu va lui donner de son amour. Quitte la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Et là, je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations. Alléluia. Et en ta postérité seront bénies toutes les nations. L'Écriture dans Galates au chapitre 3, verset 16, insiste pour dire qu'il ne nous est pas dit « et à tes postérités », mais à ta postérité, sa postérité. Et cette postérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais c'est extraordinaire ce qui lui arrive. Dieu lui parle et lui dit « mon plan de salut et de rédemption qu'on a chanté tout à l'heure, il va passer par toi. » Alléluia. Tu veux être un instrument de bénédiction, même une source de bénédiction. Alléluia. Et lorsque on lit la suite, notamment dans Genèse, au chapitre 15 et au verset 5, tandis qu'Abraham est en train de réfléchir eh bien, à tout cela, en se demandant comment eh bien, les choses eh bien, vont pouvoir se mettre en place. Je ne sais pas si on peut le mettre, Genèse 15 et le verset 5. Merci Bénédicte. Voilà, c'est une source de bénédiction, elle aussi. Voilà. Il nous est dit, après l'avoir conduit dehors, tandis qu'il est en train de réfléchir sous sa tente. Voilà, des fois, on est pris dans nos pensées, on est à l'intérieur, on est sous notre tente. On limite Dieu, nos raisonnements le limitent. Et là, il nous est dit, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Vous avez déjà compté les étoiles ? C'est dur, hein ? Voire même impossible. Hein ? Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et la suite, le verset 6. Abraham, tiens, on revient. Eut confiance en l'Éternel et lui compta justice. Il ne pouvait pas le faire. Je te fais confiance, Seigneur. Je n'y arrive pas. Ça me dépasse. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais Seigneur, j'ai confiance en toi. Et c'est ça la foi. Alléluia. Et je voudrais vous dire que ce matin, nous, on a beaucoup plus eh bien, que ce qu'Abraham avait parce que nous, on a Jésus-Christ. Alléluia. Et à la croix, vous savez, la croix, un croisement, le point de jonction, ce point-là, entre l'humanité et Dieu. Alléluia. Dieu qui vient au contact de l'humanité, le royaume de Dieu. Alléluia. Cette révélation eh bien, de Jésus-Christ, comme on l'a chanté tout à l'heure, eh bien, de celui qui est venu nous sauver de nos péchés. Je voudrais vous dire que tout est possible à celui qui place sa foi en Jésus. Quand il y a la révélation de Christ, lorsque... on réalise, mais Dieu s'est fait homme, il me visite. Ce Dieu qui a créé les étoiles que je suis incapable de compter et qui a fait bien d'autres choses encore, mais il s'intéresse à ma vie, il me connaît par mon nom, il veut me faire entrer dans son plan d'amour et afin que j'en aie la pleine conviction, il s'adresse à moi personnellement. Alléluia! C'est un cœur à cœur avec lui, c'est pas une religion. On peut connaître une religion par cœur et ne jamais connaître Dieu. Mais Dieu se révèle à nous personnellement. Alléluia. Dieu s'est fait homme, il est venu. Et Jésus, eh bien, change les cœurs et les vies, il est le Christ. Vous savez que quand la révélation de Christ se fait dans un cœur, tout est transformé. On pense, je pense par exemple à Siméon, cet homme de la Bible, il pensait à la mort et il n'avait pas de réponse. Et quand Jésus passe dans ses bras, tandis qu'il est présenté au Seigneur, il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. C'est-à-dire, j'ai plus peur de la mort. Tu as pourvu à mon salut. Alléluia. Mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Lorsque Jésus se révèle dans un cœur, le brigand à la croix, vous vous souvenez ? Seigneur, vous vous souvenez, il est crucifié, il dit, mais à celui qui se moque de Jésus, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Et il dit, mais souviens-toi de moi, quand tu entreras dans ton règne. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais ses péchés sont pardonnés, la mort est vaincue, le pardon entre dans le cœur, lui-même entre dans le ciel. Et que penser de cet homme, ce fanatique religieux qui était Saul de Tarse, qui est arrêté sur le chemin de Damas, lui, il voulait tuer et mettre en prison tous les chrétiens de la terre. Il est arrêté. Et qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Et là, cet homme est bouleversé par l'amour de Dieu. Bouleversé par l'amour de Dieu. Alors que Jésus aurait pu se débarrasser de lui. Voilà l'autorité, mais il réalise l'amour dont il aimait. Tout ce que Jésus a subi, tu me persécutes, j'ai donné ma vie pour toi à la croix. Et cet homme va complètement changer. Alléluia. Au lieu d'être un persécuteur, il va devenir eh bien, un berger. Alléluia. Un homme de Dieu eh bien, que vous connaissez au travers des... Donc, cette conviction que tout ce que Dieu promet, il est capable de le faire, nous pouvons l'avoir dès lors que nous avons cette révélation de Jésus. Amen. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Et des hommes et des femmes convaincus sont des hommes et des femmes convaincants. Quelqu'un qui est hésitant, il va amener le doute autour de lui. Quelqu'un qui dit « Ouais, enfin, il faut quand même voir, ben, Vous savez, si je vais voir mon garagiste et que je lui dis « Et la voiture, vous pensez que c'est bon? Je peux partir là ?» il faut voir. Non, il ne faut pas. Enfin, je ne vais pas m'en rendre compte à 200 km d'ici. Hein, il faut voir. Non, voilà. Non, mais s'il me dit « Non, vous pouvez y aller, c'est bon. Voilà, je vous certifie. Ah bon, d'accord, ok, on y va. Et confiance. » Mais la révélation de Jésus, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Et que nous soyons des hommes et des femmes, eh bien, de conviction. Cette conviction va rendre Abraham, eh bien, invulnérable. C'est mon deuxième point, une conviction qui est façonnée. Cette conviction va rendre Abraham invulnérable. L'Écriture nous dit, eh bien, qu'il va espérer contre toute espérance. Cette conviction va l'amener à relever des défis, à compter sur le Seigneur, sur Dieu, dans les situations les plus difficiles qui soit dans sa vie. Et en cherchant le grec, ce terme de pleine conviction, il est formé de deux mots en grec qui signifient mais comme pleinement habillé, habité, pleinement recouvert, pleinement recouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme quelqu'un qui s'habille et qui n'a rien oublié. Voilà, imaginez que je sois venu là, j'ai oublié ma chemise, vous direz, ben, Manuel, il te manque un truc quand même là. Voilà, hein. Donc, mais lui, il est pleinement habillé, pleinement revêtu. Il y a eu dans sa vie ce que j'ai appelé un apprentissage d'Abraham pour qu'il puisse lui-même arriver à cette pleine conviction. Nous, on ne va pas employer le mot apprentissage, on va employer le mot des Écritures, être un disciple, être formé. Est-ce que vous acceptez d'être en formation? Il y a plusieurs jeunes qui me disent, je cherche une alternance. Est-ce que vous êtes en alternance avec le Seigneur? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une partie théorique chez vous? Vous lisez, enfin théorique, c'est jamais théorique avec le Seigneur. Enfin, bon, voilà, vous comprenez. Une partie d'enseignement, voilà, où vous lisez la parole de Dieu et votre alternance, hein, Laetitia, elle y va. Et on met en pratique, c'est ça. C'est-à-dire, ce qu'on a appris, on le met en pratique. Et c'est ce qui va se passer pour Abraham. Il va devenir eh bien, un disciple de Christ. Il va apprendre à être un homme de conviction. Comment on fait pour avoir de telles convictions, Seigneur? Ce n'est pas un coup de baguette magique. Ce n'est pas être quelqu'un de, je ne sais pas, nerveux ou qui parle plus fort que les autres. Ce n'est pas du tout ça. Regardez, on va lire dans juste un enseignement du Seigneur, si vous voulez bien, dans Matthieu, au chapitre 21. Vous êtes toujours là? Mais je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Gloire à Dieu. Mais je sais qu'on peut être présent de corps, hein, Mehdi. Alléluia. Mais les jeunes savent à quoi je fais référence. Hier, je crois que j'ai eu la réunion de jeunesse. J'ai sorti les rames, les pagaies. Les pauvres, ils étaient tous là. On a eu une bonne réunion de jeunesse. Hein. Ils étaient là, mais dans un état de fatigue. Voilà, mais grâce. Tout à l'heure, on prie pour toi. Hein. Voilà, je dirai pourquoi. Allez, Matthieu, chapitre 21. Et le verset 21, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait, et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Et Marc, chapitre 11, verset 25, ajoute encore à ce même passage un autre détail. C'est pour ça que ce sont les évangiles synoptiques. Donc, il nous est dit, bon, verset 23, on ne va pas le relire. Et verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père, qui est dans les cieux, pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » On est en train de s'apercevoir que notre conviction découle également de l'état de notre relation avec Dieu. Il nous dit, le Seigneur, si vous aviez de la foi comme un grain de sève, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, rien ne vous serait impossible. Mais, l'enseignement qu'il ajoute, mais il faut que vous ayez une vie de prière. Ça veut dire, et deuxième point, il faut aussi que vous ayez une relation digne d'un enfant de Dieu avec votre prochain. Très courtement, le Seigneur, il donne deux enseignements. Oui, ok, vas-y. Il y a une montagne, mais si tu as de la foi, si tu places toute ta foi en moi, même si c'est voilà, une foi eh bien, comme un grain de sève, eh bien, rien ne te sera impossible. J'ai tout accompli. Ma victoire, c'est la tienne. Oui, mais Seigneur ajoute, sois pleinement convaincu et que ta vie aussi soit en harmonie avec ce que tu dois être. C'est-à-dire qualité de relation avec moi dans la prière. C'est pas à dire sans porter comme ça, sans aucune préparation spirituelle. Dans la prière, quand tu pries, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Ferme la porte dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père céleste te le rendra, qui voit ce qui se passe. Et peut-être que devant Dieu, il y a des choses à revoir. Peut-être que devant Dieu, on comprend de quelle façon il faut prier, plus particulièrement. Et puis ensuite, il nous est dit, puis si tu es debout comme ça en train de prier, si tu as quelque chose contre quelqu'un, mais enfin, réconcilie-toi, demande pardon ou pardonne. Voyez ? Voyons que, et comme l'apôtre Pierre le disait dans 1 Pierre au chapitre 3, au verset 7, que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et on s'aperçoit que, avant que Abraham vive pleinement la promesse, c'est un homme qui devra revêtir cet homme nouveau. Et vous savez qu'à un moment dans la vie d'Abraham, cet homme cessera de s'appeler Abraham pour devenir Abraham, un homme qui était vraiment changé, transformé, un homme qui est vraiment entré dans une maturité spirituelle. Alléluia! Un homme qui pourra dégager une foi pure, une voie saine dans son Dieu pour voir toute la gloire de Dieu. Et je prie afin que certains d'entre nous, et chacun de nous, nous soyons de ces hommes de conviction, mais des hommes qui ont été au préalable changés, transformés par le Seigneur. Non pas des adhérents. Vous savez, la philosophie grecque présentait toutes sortes, à l'époque de l'apôtre Paul, des premiers chrétiens, toutes sortes de concepts. Et on pouvait adhérer. J'adhère à la pensée d'un tel, j'adhère à la pensée d'un tel, j'adhère à la pensée de Jésus. Mais ça marche pas, ça. Si tu fais qu'adhérer en disant, ce qui se dit ici, c'est bien, ils ont raison. Mais si tu ne le mets pas en pratique, tu es semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le sable. Tu peux tout savoir, mais si tu ne le vis pas, écoute, tu vas pas avoir, tes convictions ne vont pas te mener bien loin. Il faut que tes convictions soient bâties sur la personne de Jésus, alléluia, dans l'étroitesse d'une relation et d'une communion personnelle qui t'attache à lui de tout ton cœur. Alléluia, amen, amen. Et c'est ce qui va se passer pour Abraham. Et Abraham, il va apprendre à vivre avec ce que Dieu lui demande de faire. Charge-toi de la croix. Il va devoir se séparer de son père. Alléluia. Et on est assemblés pour bénir le beau nom de Jésus. Amen. Alors, si je regarde mes notes, j'ai noté ceci. Eh bien, que c'est celui qui te bénit. Eh bien, quand tu t'appuies sur lui, il est ton bouclier. Il est celui qui t'apprend à marcher avec lui, à tout quitter pour t'appuyer pleinement sur lui. Et en avançant, donc une conviction qui a pour origine Christ, une conviction qui nous habite, qui nous permet d'avancer avec lui, et une conviction qui est éprouvée également. Parce que cette conviction, il faut la protéger. Tout à l'heure, j'ai lu un texte, ou plutôt on va le relire dans l'Épître aux Romains, et au chapitre 15, On l'a lu tout à l'heure, non ? Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Alléluia. Et ce texte, oui, chapitre 15 des Romains et verset 22, est-ce que ça peut apparaître ? 14. Tu vois, Véro ? Chapitre 14. 14. Ah voilà. Cette foi que tu as, garde-la, ou cette conviction, garde-la pour toi devant Dieu. Il y a des choses qu'il faut garder et qu'il faut protéger. Je suis convaincu que lorsque Sarah a parlé à Abraham d'un autre moyen d'avoir un enfant que celui que Dieu avait préconisé, auparavant, Abraham avait une conviction par rapport au Seigneur, mais il s'est laissé fléchir. L'Écriture nous dit il préféra écouter la voix de Sarah. Et c'était pourtant la voix de son épouse, la voix de quelqu'un de proche, mais le meilleur des conseils humains ne remplace pas le conseil de Dieu. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, soyez attachés à la parole de Dieu. Et il nous est dit ceci, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Le conseil de Dieu ne change pas. La promesse de Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Et c'est ce que fera eh bien, Abraham par la suite. Et il devient un homme qui sera pleinement convaincu par rapport eh bien, à ce que Dieu lui a donné. Parce que finalement, le Seigneur va lui apprendre eh bien, à protéger ces choses. Il sera obligé, bien sûr, de se séparer d'Agar, de se séparer d'Ismaël et de protéger eh bien, la promesse qu'il avait de la part du Seigneur. Et lorsque Dieu lui demandera eh bien, même d'offrir Isaac en sacrifice, vous avez remarqué qu'il ne donne pas plus de commentaires et de détails à Sarah cette fois-ci. Il dit « Nous reviendrons ». Mais il ne dit pas tout ce qui va se passer. Je sais qu'il a la puissance d'accomplir ce qu'il l'a promis. Comment va-t-il s'y prendre ? Je ne sais pas. Mais je sais qu'il va le faire. Alléluia ! Et peut-être quelqu'un comprend que ce soir, le Seigneur l'appelle à offrir sa vie. Tu dis, mais alors je vais quitter le bonheur, peut-être des relations, peut-être des amitiés, peut-être un certain confort, j'en sais rien. Mais comment je vais continuer à être heureux quand c'est comme ça ? Vous savez, quand le Seigneur m'a appelé à le servir, je suis allé voir le pasteur de mon église où je me trouvais, c'était dans le sud-ouest, et je lui ai parlé de l'appel qui était sur mon cœur et qui s'est vérifié. Et il m'a dit, ok, mais j'attendais que tu viennes me voir. Et puis, il m'a confié divers tâches dans l'église locale où j'étais. Et je me souviens, lorsque je suis sorti de chez lui, mais il y avait quelque chose qui était charnel qui s'est emparé de moi. Même quelque chose, je pense, de diabolique. Je me suis senti comme quelqu'un de prisonnier. Je donne ma vie pour servir le Seigneur, je veux le servir. Et tout d'un coup, cette pensée me dit, mais regarde, c'est comme si tu avais des menottes aux mains. C'est comme si tu étais complètement eh bien, prisonnier, plus libre de faire ce que tu veux. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, je me suis trompé, mais là, je ne veux pas vivre comme ça. Moi, je suis libre. Et d'une certaine manière, le Seigneur m'a répondu ainsi, écoute, Emmanuel, tu es libre, mais moi aussi, je suis libre. Si tu veux aller dans cette direction, c'est bien, mais moi, je n'y vais pas, moi, je vais dans l'autre. Et j'ai senti quelque chose de terrible que je ne souhaite à personne. Tout à l'heure, tu as chanté la présence du Seigneur, mais comme si la présence du Seigneur me quittait. Alors là, c'est abominable, ça. Vivre sans Dieu quand on l'a connu. Alors là, ça a duré quelques jours. Hein. Ça a duré peut-être, je ne sais pas si ça a duré une semaine. Voilà, mais j'ai dit pardon au Seigneur. J'étais rempli d'angoisse, j'étais mais malheureux, mais j'avais perdu la joie du salut. J'ai dit, mais Seigneur, écoute, je te demande pardon, Seigneur, pour tout ça. Mais Seigneur, où tu veux, quand tu veux, oui, amen, alléluia. Et même si je dois renoncer, c'est pas grave, Seigneur. Bah écoutez, je veux vous dire, j'ai quitté mon église, ma région, ma famille, mais j'ai retrouvé, entre autres, ben, je me suis marié, alléluia. Ben, je suis convaincu que si je n'avais pas fait ça, j'ai une famille, des enfants, je sers le Seigneur, vous êtes là, vous êtes ma famille, amen, alléluia, gloire au Seigneur. Et on bénit Dieu, amen. Mais cette conviction-là, il faut que tu la protèges. Tout à l'heure, je parlais d'être revêtu, pleinement habité, habillé, revêtu. Moi, ça me fait penser aussi à ce que Jésus a dit, mais parlons de la promesse du Père, vous recevrez eh bien, une puissance, alléluia, un revêtement de puissance. Luc 24 et au verset 49, lorsqu'il nous est dit cela, eh bien, d'être revêtu eh bien, de la puissance du Saint-Esprit pour garder ce que Dieu t'a donné. Je vais vous faire juste un petit commentaire, j'espère que ça ne va pas être trop long. Bon. Mais je fais appel à vos souvenirs. Éphésiens, chapitre 6, verset 1er. Si vous vous en souvenez, peut-être que ça peut apparaître comme ça, juste pour mémoire, l'apôtre Paul, au chapitre 6, parle, voilà, tu peux faire défiler, enfants, obéissez à vos parents, parents, père, n'irritez pas vos enfants, honore ton père et ta mère, etc. Il est parlé des parents, des pères qui ne doivent pas irriter leurs enfants. Ensuite, il est parlé des serviteurs qui doivent être soumis à leur maître, des maîtres qui doivent obéir, qui doivent être, comment c'est écrit ? Vas-y, un peu plus loin. 8, voilà. Encore. Voilà, agissez de même à l'égard de vos serviteurs, parce que nous vous menacent, etc. Et en réalité, tout ce petit monde désire se soumettre à la volonté de Dieu. Dans ma famille, les enfants veulent obéir au Seigneur. Dans ma famille, dans notre famille, dans nos familles, nous voulons que ce soit le Seigneur qui règne. Les parents, pas parce que je suis ton père que je fais n'importe quoi. En tant que papa, en tant que maman, on se soumet au Seigneur. En tant qu'enfant aussi. Oui ou non ? Au travail aussi, on se soumet au Seigneur. Alors qu'on soit responsable ou qu'on soit employé, on se soumet au Seigneur. Il y a parmi nous des artisans, des chefs d'entreprise, il y a parmi nous des salariés. Au travail, on veut faire la volonté de Dieu. Oui ou non ? Parce qu'on a la conviction que c'est comme ça qu'il faut marcher dans ce monde. Et tout de suite après, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et voilà, quand nous n'avons pas, etc., etc. L'armure du chrétien, vous connaissez ? Souvenez ? Tac, tac, tac. Et si tu reviens bien, le verset 11, les ruses du diable, dites-moi, le diable, c'est lequel, celui-là ? Est-ce que c'est celui qui se soumet à Dieu ? Et non, c'est le rebelle, celui qui amène la désobéissance. Celui qui va te mettre la peau de banane pour te porter à désobéir, te mettre en colère peut-être avant le culte, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Jamais ça m'arrive et c'est maintenant que ça m'arrive. Alors que je m'apprêtais à prier, alors que je m'apprêtais... On voit bien qu'il y a le diable qui... Et l'Écriture nous dit, dans le cadre d'enfants de Dieu qui veulent marcher dans l'obéissance du Seigneur, mais pour ne pas être entraîné dans le vent de rébellion qui souffle dans ce monde, sois fort. Prends les armes, sois rempli du Saint-Esprit et une vie de piété, une relation avec Dieu tellement forte que tu es rempli du Saint-Esprit, que tu vis la promesse, le baptême du Saint-Esprit et tu pourrais être en sorte de résister au diable. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'une conviction, ça se protège, ça se bâtit, ça se construit et ça se nourrit eh bien, de la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je termine en vous disant que finalement, la conviction d'Abraham, elle était vraiment récompensée parce qu'il est devenu un homme dont la conviction lui a donné la victoire. Isaac est né. D'une certaine manière même, il a failli le perdre. Il est pratiquement passé par la mort. Il est revenu. Rien n'est impossible à Dieu. Et cet homme-là a appris que, en réalité, c'est Dieu qui rend vainqueur, comme on l'a chanté tout à l'heure, à tout jamais. Mais lui, sa part, c'est de rester ferme et fort dans ses convictions. Je vous ai dit comment faire, c'est-à-dire s'attacher au Seigneur, alléluia, dans sa grâce, nous avons vu ensemble ce que vous saviez déjà, eh bien, c'est qu'il est l'origine, le Seigneur, de nos convictions. Mais nous avons appris également eh bien, à grandir et que le Seigneur est celui eh bien, qui veut nous faire grandir. Et peut-être quelqu'un se dit ce matin, mais je ne suis pas à la hauteur d'Abraham, je me sens fragile, je me sens un petit peu pris par les pièges de ma nature, par des situations où je me laisse complètement dépasser. Mais je voudrais te dire ceci, ne perds pas courage, parce que le Seigneur a commencé une œuvre en toi, et l'Écriture nous dit que cette œuvre, il amène jusqu'à la perfection. Alléluia. Nous n'avons pas toujours été ce que nous sommes, et lorsque nous voyons la vie des hommes de Dieu tels qu'Abraham, David, etc., voilà des gens extraordinaires. Mais la Bible se plaît à déconstruire tous ces héros pour leur dire ils sont de la même nature que nous. Et s'ils ont été ce qu'ils ont été, c'est pas grâce à leur personnalité hors du commun, c'est parce que Dieu a été avec eux. Alléluia. Amen. Et l'Écriture nous dit qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il est capable de l'accomplir. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. C'est pas moi qui les sauve, Seigneur. C'est toi. Mais moi, je suis pleinement convaincu que tu vas le faire. Alléluia. On n'a pas entendu tout à l'heure un don spirituel qui nous disait « Si la promesse tarde, attends-la car elle s'accomplira sûrement. » Ça, c'est un verset de la Bible qui doit susciter en vous une conviction profonde dans la puissance de Jésus. Alléluia. Et vous affermir. Amen. Et je la fais travailler. On termine. Ésaïe, chapitre 26. Merci Bénédicte. Et le verset 3. Il nous est dit ceci, et on va terminer sur ce verset. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Et le verset 4, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Vous voulez qu'on se confie dans le Seigneur et qu'on dise, Seigneur, je veux abandonner mes faux raisonnements. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Seigneur, pour l'exemple de ces hommes de la Bible. Seigneur, qui nous permettent de comprendre comment marcher avec toi. Voyons que ce sont des hommes qui n'étaient pas plus forts, plus grands, plus intelligents que nous. Et ils avaient les mêmes défis que nous. Mais Seigneur, tu les as pris par la main et tu leur as appris à être des hommes et des femmes fermes dans leurs convictions. Et je te prie, Seigneur, afin que ce matin, Seigneur, tu te saisisses de ces quelques moments et de cette parole pour amener tes enfants à être des hommes et des femmes de conviction, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit, Seigneur Jésus, à l'église, que ce soit, Seigneur, pour certains, dans leur célibat, Seigneur, pour d'autres, Seigneur, dans leur responsabilité familiale. Alléluia. Seigneur Jésus, pour... Seigneur, le service que tu as confié également, Père Céleste, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous avons la pleine conviction que tu es tout puissant pour pardonner, pour libérer, pour transformer, pour amener la paix. Alléluia. Et Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, déchoir de cette position de force. Et je te prie, Seigneur, afin que ce soir, ce matin, Seigneur, mon Dieu, pour celui, pour celle, pour l'enfant de Dieu, qui a comme perdu, Seigneur, cette position de force dans sa vie, Seigneur, puisse la retrouver dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie que, par ta grâce, il puisse saisir ta main, toi qui relèves, on l'a chanté tout à l'heure, c'est toi qui fais. Abraham ne pouvait pas rendre sa femme fertile, il y a eu un miracle, c'est toi qui l'as fait, tu mets la vie là où il y a la mort. Seigneur, tu nous relèves, alléluia. Alors ce soir, ce matin, Seigneur, nous plaçons notre confiance en toi. Alléluia. Si quelqu'un veut que l'on prie pour lui ou pour elle, en disant, mais moi j'ai besoin que ma foi, elle grandisse. Et je voudrais que le Seigneur la fasse grandir. Entrer dans ce processus d'être un disciple, quelqu'un qui apprend. Vous voulez bien qu'on prie le Seigneur? Alors si vous voulez qu'on prie le Seigneur ensemble, vous pouvez lever votre main en disant, voilà, je veux que ma foi grandisse. Soyez. Plusieurs qui lèvent leur main. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux t'apporter tes bien-aimés. Seigneur, qui ont levé leurs mains. Et Seigneur, je crois que chacun d'entre nous, on pourrait la lever, Seigneur. Mon Dieu, mais particulièrement passe-t-il par une circonstance, Seigneur, où ils comprennent qu'ils ont vraiment que tu les prennes en main. Ils ont besoin de voir leur foi grandir en toi, leur conviction s'enraciner en toi. Seigneur, mon Dieu, je te demande, Seigneur, de les fortifier. Et Seigneur, s'ils ont pu tomber, mais tu les relèves ce matin. Et Seigneur, mon Dieu, tu les amènes à, Seigneur, une position de force où, Seigneur, leur foi s'appuie non pas sur leurs efforts, non pas sur eux-mêmes, mais sur toi, Seigneur. Et je te prie afin qu'ils maintiennent grâce à leur, cette relation, cette vie spirituelle, Seigneur, qu'ils maintiennent cet état de foi, Seigneur, conquérant, cet état de foi victorieux, dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui t'empares de leur vie et qui fais d'eux des héros de la foi. Seigneur, dans leurs circonstances. Père Céleste, dans le nom de Jésus, c'est toi qui agis, Seigneur, dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire, Père. Amen.